Pour cette émission de rentrée après les vacances d'été, nous allons être plus que jamais fidèles aux idées, comme le suggère le titre de notre magazine, et nous allons évoquer cette fois celle d'Ivan Illich. Pour bon nombre d'entre vous, ce nom est inconnu, et notre objectif ce dimanche est de vous présenter l'homme et sa réflexion. Tâche difficile, tant cet intellectuel de haute volée, ce prêtre rebelle, s'est intéressé à beaucoup de sujets au siècle dernier, au XXe siècle. Donc, si nous vous en parlons aujourd'hui, c'est que sa pensée est actuelle, lui qui s'est notamment intéressé, en la remettant en cause, à la société industrielle et à l'économie capitaliste. On lui doit des livres importants sur l'école, le système de santé, la vitesse, par exemple. Jean-Michel Dian est avec nous, il vient d'écrire un essai passionnant, une biographie sur Ivan Illich, l'homme qui a libéré l'avenir, ce livre publié aux éditions du Seuil. Alors Illich, cet ascète à l'immense culture, fut-il un imprécateur, un prophète des temps modernes? Peu importe qu'Illich ait eu raison avant l'heure, écrit Jean-Michel Dian, son irruption sur la scène mondiale aura permis à ceux qui croquaient le progrès à pleines dents, sans ciller, de s'interroger sur sa nature. Idée, un magazine que vous pouvez retrouver sur notre site www.rfi.fr. Vous pouvez le télécharger et l'écouter quand vous le souhaitez. Merci de votre fidélité. Bonjour Jean-Michel Dian.
Bonjour.
Je suis ravi de vous avoir à ce micro. Nous commençons quasiment la saison avec vous, nouvelle saison d'idées. Vous êtes journaliste, auteur, essayiste, documentariste, vous avez plusieurs casquettes, mais toujours avec un objectif, aller dans le fond des choses. Il y a quelques années de cela, c'était en 2012, nous avons parlé avec vous des manuscrits de Tombouctou, une ville qui vous est chère, je crois. Hein.
Oui, absolument, encore aujourd'hui, malgré l'impossibilité d'y mettre les pieds.
Oui. Et là, il y a maintenant ce livre, publié au Seuil, je le disais, sur Ivan Illich, un drôle de personnage.
C'est un drôle de personnage qu'on n'arrive pas à classer, on n'arrive pas à le nommer presque, on ne sait pas vraiment qui il a été.
Vous écrivez, Jean-Michel, impossible d'attraper l'identité réelle d'Ivan Illich.
Oui, je crois qu'il jouait avec cela. Hein. Il est arrivé une fois d'ailleurs, quand il débarquait à Orly, le douanier lui posait la question de savoir quel métier il exerçait. Il répondit « Je suis écrivain public ». Voilà. Donc, il fallait pour lui essayer de sortir des schémas, sortir des étiquettes. Il a passé sa vie à sortir du champ magnétique des idées reçues. Il est parvenu. Est-ce que c'est la raison qui crée le mythe, la légende? On n'en sait rien. Mais quand on prend le temps de le lire, on découvre un prophète dans le sens le plus basique du mot, c'est-à-dire quelqu'un qui avait des prémonitions, qui avait le don de l'anticipation. Et force est de constater qu'aujourd'hui, quand on relit Illich, on s'aperçoit qu'il y a 50 ans, il a prévu exactement ce qui se passe.
Alors c'est presque un personnage de roman.
Oui, sa vie est un roman.
Sa vie est un roman. Ouais. On va en parler de sa vie avant de parler de ses idées. Je le disais, c'est un homme du XXe siècle. Il a épousé quasiment le siècle.
Hein. Il est né en 26, il est mort en 2002, donc il s'identifie au siècle. Et avec les malheurs du début du XXe siècle, les charniers de la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, et puis effectivement ces 30 glorieuses qui ont fasciné Illich, et il a été, je crois, le premier à sortir de la cage de verre de la modernité, comme disait un de ces Illichiens de l'université de Princeton, Umberto Beck, qui disait c'est le premier à être sorti de la cage de fer de la modernité.
Il y en a un, il y a un intellectuel de haute volée qu'on avait rencontré il y a quelques mois, il s'agit d'Edgar Morin, qui signe la quatrième de couverture de votre livre, d'ailleurs Jean-Michel Dian, qui a suivi avec précision et un grand intérêt les travaux d'Illich.
Ah oui, absolument, je dois d'ailleurs à Edgar Morin le fait d'avoir pu rencontrer Ivan Illich il y a 20 ans exactement, et il y a effectivement une porosité entre les idées d'Illich et celles d'Edgar Morin. Récemment, Edgar Morin me disait en fait, j'aurais voulu être le Illich français. Il l'est déjà. Quand il a écrit Terre Patrie en 2000, il disait exactement ce qui se passe aussi d'une autre manière, hein, sur l'écologie, sur la Terre, sur la planète. il y a une filiation entre les deux. Et en même temps, ce qu'il faut reconnaître à Ivan Illich, c'est cette redoutable capacité à être rebelle dans les institutions. C'est-à-dire qu'on oublie quand même que Illich est d'abord un évêque.
Alors c'est ça qu'il faut noter, et ça ajoute au côté romanesque du personnage, c'est que c'est un prêtre.
C'est un prêtre.
En marge un peu de l'Église, mais un prêtre d'évidence. Il faut, avant de parler de ses idées, donc Jean-Michel Dion, retracer un petit peu son enfance qui donne la couleur à sa vie. Hein.
Bah oui, effectivement.
Naissance à Vienne, en Autriche.
Il est né à Vienne. Ses parents ont vécu sur une petite île au large de la Croatie. Ses parents étaient des aristocrates. Lui-même est un aristocrate. Mais c'est quelqu'un qui a très rapidement choisi de vivre d'espoir que de désespoir. Et c'est dans les livres qu'il a trouvé la meilleure matière première pour essayer de se construire. Et dans l'écoute des conversations des grands. Ça, c'est très étonnant.
C'est ce que vous expliquez très bien, effectivement. On sent l'enfant seul, un peu.
L'enfant seul, puisqu'il
écoute beaucoup et qui lit beaucoup.
Absolument. Mais ce qui était très intéressant quand j'ai discuté avec l'ex-belle-sœur d'Ivan Illich, c'est de découvrir que tout petit, à 7-8 ans, il se mettait sous la table pendant les repas des grands et il écoutait ce qui se disait. Et puis, il repartait dans sa chambre, il prenait un livre très jeune, il a lu Dante quand même. C'est parce qu'il y avait plus que ça dans les bibliothèques.
Ah, vous écrivez même, vous dites même Jean-Michel qu'il ne s'est jamais remis de cette enfance en quelque sorte.
Bah, il s'en est jamais remis tout simplement parce qu'on l'a tout de suite identifié comme un juif et son professeur d'histoire montrait son nez devant tout le monde et de cela il s'est pas remis, d'autant plus que sa mère n'a pas été là pour trouver peut-être les mots qu'il fallait. Bon, il a considéré, d'ailleurs, à ce moment-là, il l'a dit beaucoup plus tard à un de ses biographes, David Cayley, un Canadien, que ce moment-là était décisif. Il a décidé, effectivement, qu'il n'aurait pas d'enfant. Fallait-il en déduire qu'il serait prêtre? Pas forcément, mais il est évident que le choc brutal de cette maladresse a pesé dans la conscience de l'enfant Illich à l'époque.
Et on comprend pourquoi il s'est intéressé à l'école. On va en parler tout à l'heure.
On le verra aussi, oui. On le verra. L'école, pour lui, c'est une matrice totalement discutable. Alors effectivement, quand on parle de l'école, il a été à l'école, il a été plutôt un très bon élève. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement 8 langues et qui les parle sans accent. Et d'ailleurs, il décide de la langue qu'il utilise en fonction de son interlocuteur, donc ce qui est totalement étonnant quand on voit la manière dont il traite tous les sujets. Il a à la fois étudié la théologie, la philosophie, la christologie. Donc vous voyez, c'est quand même des domaines extrêmement diversifiés. Il s'est intéressé à tout. Et au fond, il sort de ça le sentiment que ceux qui pensent, ce sont des personnages qui doivent accompagner les hommes dans leur destin. Et il n'a pas cessé de côtoyer des intellectuels avec une obligation pour lui de faire une thèse de doctorat. Enfin, il a 3 doctorats, donc. Mais de s'apesantir sur le poids de la pensée. Et ça ne l'a pas empêché de décider de rentrer dans les ordres.
Toujours la pensée dans l'action.
Pas tout de suite. Par exemple, il n'a pas été un résistant pendant la guerre. Il aurait pu, hein. Il a seulement donné quelques coups de pouce.
Il est né en 1926, donc voilà. Effectivement, il aurait pu.
Oui, mais il ne l'a pas été. Il a été à son niveau comme beaucoup, mais ça n'a pas été un résistant dans le sens avec un grand R, comme a pu l'être Edgar Morin, par exemple, en France. Mais la réalité du personnage, c'est que au fond, il croit en Dieu. Il a la foi. Il est obsédé par l'idée que l'existence de Dieu gouverne le monde. Mais en même temps, il a ce détachement qu'on ne trouve pas forcément dans le clergé, qui est de dire, ok, il y a Dieu, il y a son Église. Et dans l'Église, en revanche, il devient un rebelle de premier ordre.
Alors, effectivement, il faut s'arrêter sur cet épisode de sa vie. Il devient prêtre en 1951, soyons précis, à l'âge de 25 ans. Et vous dites qu'il était un ascète habité par l'Évangile dans le texte.
Voilà. C'est quelqu'un qui passe son temps à revenir aux sources, du Nouveau Testament, qui revient aux sources de l'Évangile, qui parle de la charité de manière totalement froide, glaciale et en même temps assez objective. On en reparlera peut-être, mais la métastructure qui l'enveloppe est fabriquée par l'Évangile. Mais quand on le connaît, quand on le rencontre, quand on voit ce qu'il a fait, on s'étonne qu'il ait pu prendre sa distance et ses distances avec ses propres patrons, à savoir le pape. Paul VI, à l'époque, le reconnaissait comme étant un brillant
le pape Paul
prélat,
VI, ouais.
Tout en s'en méfiant, parce que son discours, cette façon qu'il a eue d'interpeller le pape en lui demandant pourquoi il ne dénonce pas l'arme nucléaire, pourquoi il continue de se distancier de cette prise de décision. Il n'y avait personne à l'époque qui le faisait au sein du clergé.
Alors, il faut dire aussi que son parcours de prêtre est assez atypique, il faut le souligner, car à peine entré dans la prêtrise, il part, je crois, aux États-Unis.
Voilà, il part aux États-Unis et il se...
pas n'importe où.
Non, non. D'abord, il termine une thèse de doctorat avec Jacques Maritain, ce qui est pas...
Qui avait une chaire de philosophie,
voilà,
à Princeton.
D'ailleurs, il... Un jour, Maritain a un malaise cardiaque. Le doyen de l'université demande qui pourrait intervenir à sa place dans un cours préparé. Et finalement, il propose à Ivan Illich de le faire.
Au débeauté, donc, il donne
des beautés. Et il fait un cours sur la perversion de l'Église et de l'État. Donc, ça pouvait pas mieux tomber, puisque c'est son fonds de commerce. Et Illich...
Donc, à peine entré dans les ordres,
ouais, à peine il commence à dénoncer, mais de manière assez... assez structuré, c'est-à-dire qu'au fond, on a du mal à lui reprocher son caractère de pamphlétaire, parce qu'il ne l'est pas du tout. C'est quelqu'un qui construit une pensée, surtout dans des étudiants, aidé par son charisme naturel. Il n'a rien d'un gourou. Il fait son travail d'enseignant pour l'occasion. En même temps, son souhait, c'est de tenir une paroisse. Et il tombe raide amoureux d'un quartier de New York, le quartier portoricain.
Le ghetto portoricain, oui.
Et là, c'est la révélation. C'est-à-dire que il passe son temps à vivre avec ses ouailles. Il considère que la minorité portoricaine est malmenée par la cité de New York. Il se bat dans la ville de New York pour faire en sorte que l'administration s'adapte à une partie des pratiques culturelles portoricaines et comprenne, sauf qu'effectivement, personne ne parle espagnol dans la communauté administrative et que donc personne ne les comprend. Voilà, donc il commence à donner des cours d'espagnol aux fonctionnaires de l'administration. Il encourage les citadins portoricains de nature assez timide vis-à-vis de l'autorité municipale à se battre. Bref, il crée des conditions, non pas d'un conflit, mais d'une opposition. C'est un c'est un gilet jaune de l'époque.
Hein. Vous racontez tout ça précisément dans votre livre, Jean-Michel Dion. Ensuite, il part à Porto Rico.
Il part à Porto Rico comme vice-recteur. Là, pour installer quelque chose qui est une autre dimension, c'est former, soi-disant, des personnels pour aller aider le tiers-monde. Et c'est là qu'il considère qu'il y a une vraie grande perversion d'envoyer des jeunes Américains en Amérique latine pour aider les pauvres à s'en sortir. Tout simplement parce que les motifs de cette mobilisation est un motif purement politique quand il découvre que la vraie mission, c'était d'enrayer le communisme
en
qui allait s'installer en Amérique latine.
Oui.
Et là, donc, il contrecarre complètement le programme. Il fait un contre-programme, financé d'ailleurs et soutenu par l'université de Fort Worth. Et donc, il arrive là à mettre en place un système de formation des élites qui sont radicalement en opposition avec le programme américain et le programme du Vatican et des États-Unis. C'est-à-dire que l'Église catholique, en général, pousse évidemment à ce que des investissements massifs soient faits en Amérique du Sud, mais pour en tirer des profits purement capitalistiques.
Alors ce qui fait qu'en 1968, il est convoqué au Vatican et il est convoqué devant un tribunal de l'Inquisition.
Ah oui, et on tombe en 68.
Hein, vous écrivez qu'il a dû répondre de 85 chefs d'accusation.
Si vous regardez les questions, vous allez voir, c'était inimaginable de poser en 68 des questions aussi intimes, aussi curieuses que c'est cette affaire de procès. Un procès qui relève vraiment de l'inquisition, c'est-à-dire qu'on le convoque pour l'obliger à faire allégeance. Il ne fait évidemment pas allégeance, et quand finalement c'est le Vatican qui abdique en lui demandant simplement de faire en sorte que à Cuernavaca, là où il vient d'installer ensuite ce centre international de formation, eh bien, à ce que les prêtres ne puissent pas y rentrer. Voilà, donc il y a de sa part une volonté de ne pas du tout faire allégeance aux autorités, quelles qu'elles soient.
La parole à ceux qui pensent le monde.
Alors, vous venez de parler de Cuernavaca, qui est quand même la grande création intellectuelle de très concrète de d'Ivan Illich. Avant de créer ce centre, il a eu une période de voyage.
Oui,
de,
une période plutôt là aussi.
D'assaise.
Il cherche la 16.
Oui. Il a de longues marches en Amérique latine,
mais surtout au Sahara. Surtout au Sahara, mais en Amérique latine d'abord, parce qu'il y a des amis. Il y a là un vrai enjeu politique qu'il veut traiter frontalement. Il s'appuie d'ailleurs auprès de ses amis comme Don Edgar Camara, par exemple, qui était déjà une figure de proue intéressante dans l'émancipation latino-américaine. Et puis surtout, il va traverser pendant 40 jours à pied le Sahara, s'installer dans un ermitage, et décider de son destin futur. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il défroque de l'Église? Est-ce qu'il s'engage en politique? Et là, il cherche la troisième voie, c'est-à-dire il considère que les trois pouvoirs, on dit toujours, c'est une opposition guerre froide, donc les capitalistes d'un côté et les communistes de l'autre. Non, il dit il y en a trois. Il y a le religieux, il y a l'Église. Donc il y a trois pouvoirs. Je ne veux pas choisir. Je veux essayer d'éclairer un chemin à mon petit niveau. Et au lieu de le faire dans une paroisse où je serai nécessairement sous la domination de l'institution qui me protège, je sors de l'institution et je vais au Mexique. Pourquoi? Parce qu'il y a un évêque rouge, entre guillemets, qui accepte que Illich crée son phalanstère.
Et ce phalanstère, effectivement, officiellement appelé Centre interculturel d'information, très curieux titre,
oui,
très fade
très
par rapport au contenu, qui va devenir pendant des années un centre intellectuel de haute volée.
Absolument, c'est un phare.
Cuernavaca, à 70 kilomètres de Mexico.
Oui, au sud de Mexico, un peu dans les montagnes, mais c'est un lieu, c'est un vieil hôtel qu'il a racheté avec qui valait pas grand-chose, qu'il a racheté à cette époque, pour en faire ce lieu où il décide de convoquer tous ceux qui ont envie de mettre à plat les idées qui émanent de ces trois pôles, à la fois marxiste, libéral et puis religieux, et de sortir de ça, transgresser, transcender, mais avec des âmes humaines, des gens qui viennent de partout. Et on trouve, au bout d'un an ou deux, des figures de proue qui viennent, à l'époque, faut se rappeler, dans les années 60.
Oui, nous sommes dans les années 60.
Pardon, dans les années 60, absolument raison de le rappeler. Dans les années 60, on n'est pas encore en 68. Donc on est dans des espèces de conformisme intellectuel, idéologique surtout, qui nuisent à l'expression d'une pensée un peu différente. Lui, il installe ça à Cuernavaca, et on y vient du monde entier. Les Français, les Allemands, les Canadiens.
Il y a des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes.
Sur 10 ans, il y a eu 20 000 personnes à passer. C'est énorme.
Et dont des intellectuels de
bah,
de renom.
Hannah Arendt, il y a eu des cinéastes. Marcuse, il y a eu Roberto Rossellini, comme si, enfin, il y a eu, mais des gens, alors, aussi bien, d'ailleurs, des grandes figures qui n'étaient pas forcément à l'époque, mais qui le sont devenues, des grandes figures qui se sont installées là, comme Jean-Pierre Dupuis, que l'on connaît pour d'autres raisons. Et qui se sont installés là pour partager des séminaires d'enseignement qui étaient en gros cornaqués par Illich, mais dans le bon sens du terme. Il installait des lieux dans ce phalanstère où la transmission de la pensée se faisait avec des codes quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait un rapport enseignant-enseigné, mais dès que des idées neuves apparaissaient, Illich les captait, il appelait ça la foire au savoir, ça durait une heure par jour, il captait les énergies nouvelles et il essayait de les remettre en jeu en ayant, et c'est ça toute la différence peut-être avec beaucoup d'autres intellectuels, en faisant une relation aux politiques. On n'est pas dans l'utopie, il se dit la société va très mal et ira très mal. La planète est déjà en danger, on est en 60. Hein. Il faut penser l'avenir, pas du tout comme on l'imagine. Et pour ce faire, il nous faut de la matière grise. Cette matière grise, on la met qui est en jachère, on la met au travail, on cultive, comme dans les terrains en jachère, on cultive cette matière grise et on en fait des... On disait des programmes à l'époque, des programmes politiques. Et évidemment, tout tournait vers la gauche. Hein. C'est-à-dire que c'était vraiment un programme de gauche.
La difficulté, Jean-Michel Dian, c'était de faire en sorte que ces idées soient appliquées après. Et alors, c'est là que toute la difficulté est apparue.
Beaucoup y ont cru. Regardez des personnages comme Patrick Vivray ou d'autres qui ont été vraiment nourris au lait illichien, ou voire Rocard ou Edmond Maire, des gens qui connaissaient très bien ce personnage. Ou même Alain Touraine, qui était vraiment quelqu'un qui était, ou Jean-Marie Domnac, c'était des personnages qui étaient nourris par la pensée d'Illich. Mais la pensée d'Illich n'était que le produit de ce qui se tramait dans cette phalanstère de Cuernavaca. C'est-à-dire que c'est la différence d'un Jacques Ellul ou d'un Herbert Marcuse, qui sont des grands intellectuels. Lui, Illich, mettait les mains dans le cambouis. Il jetait en pâture des belles idées pour en faire des discours politiques, des programmes politiques, et qu'il donnait à qui voulait. Et l'écologie radicale est née à ce moment-là.
Alors, ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a des périodes bien distinctes dans la vie d'Ivan Illich, parce qu'il a décidé assez brutalement de fermer ce centre.
10 ans après. Oui. Avec, d'ailleurs, c'était assez
cohérent. En 76.
Ouais. C'était assez cohérent, parce qu'au fond, vous voyez, dans les travaux qu'il a, il y a quand même quelque chose qui domine, c'est la perversion du monopole radical. Il appelle ça, c'est la contre-productivité des institutions, avec un principe simple. Plus l'institution grandit, grossit, plus elle provoque, elle va à l'encontre de l'objet qui la justifie. Donc elle crée ses propres perversions, on le voit bien tous dans les institutions dans lesquelles...
On va prendre des exemples.
Mais effectivement, c'est assez intéressant. L'école en est un, l'hôpital en est un, la ville est une institution en tant que telle. Et voilà comment Illich brasse toutes ses idées voit son lieu se développer. Tout le monde veut venir écouter les grandes figures de l'Illichisme, comme Jacques Goudy, par exemple, qui était venu, ou Léopold Corr, enfin bon, des personnages à qui on doit beaucoup aujourd'hui, parce qu'au fond, ils ont aidé à comprendre le monde d'aujourd'hui.
Alors, il faut ainsi préciser que les idées d'Illich ont infusé, en quelque sorte, dans le travail d'autres intellectuels.
Ouais, absolument. Aujourd'hui encore, on voit bien l'école des hautes études en sciences sociales ici, des personnages comme Sylvain Piron ou Olivier Rey, des grandes figures intellectuelles d'aujourd'hui, sont des enfants d'Illich. Hein. Sauf qu'ils sont dans leur bulle, à la différence d'Illich. Ils sont dans leurs institutions. Donc on ne les entend pas comme on devrait ou on pourrait les entendre.
C'est ça qui est assez fascinant, Jean-Michel Dian. Je vous remercie d'avoir fait ce travail sur Ivan Illich. C'est qu'il avait une conception du savoir qui est absolument lointaine par rapport à aujourd'hui, où les intellectuels, nous le savons dans cette émission, sont un peu enfermés maintenant pour des raisons administratives, des raisons très pratiques, dans leur spécialité.
Il n'a jamais
voulu s'adresser
C'est ça tout le problème d'aujourd'hui. C'est le problème de la segment, ce que dit Morin quand il parle de la séparation des disciplines, les chapelles que l'on voit dans le domaine disciplinaire et intellectuel. Illich, lui, il n'a jamais voulu être professeur d'université. Il a toujours été que professeur invité. Et c'était son souhait, c'était de passer. Il dit « je suis un passant ». Comme Rimbaud disait « je suis un passant », mais c'est la même chose. Au fond, c'est un rimbaldien, lui aussi. C'est quelqu'un qui est un vrai nomade et qui ne pouvait pas rester plus de 10 ans, ce qui est déjà énorme, à la tête d'une institution comme celle de Cuernavaca qu'il a créée, tout simplement parce que les perversions qu'il dénonçait, il les voyait se produire chez lui. Donc il dit « on arrête tout, et je continue mon petit chemin ». Et je vais là où on m'invite. Et effectivement, il n'a pas eu de problème pour se faire inviter.
Oui, parce qu'il a fait de nombreux, il a participé à de nombreux colloques, à de nombreuses rencontres. Il nous faut parler maintenant, Jean-Michel Dion, de son œuvre, parce qu'il a écrit beaucoup de livres de référence. Mais avant de parler de son œuvre, il faut quand même lui adresser peut-être les critiques que certains lui adressaient. On disait de lui qu'il était intolérant, qu'il n'était pas vraiment favorable à la discussion, qu'il n'appréciait pas trop les critiques.
Il y a du vrai.
Est-ce qu'il faut prendre ces critiques au sérieux?
Rappelons que d'abord, c'est un aristocrate. Et que deuxièmement, c'est un intellectuel. Donc, il y a souvent de la part des intellectuels quelques frustrations, surtout quand on met les mains dans le cambouis comme lui, de se retrouver en train de débattre de sujets avec des personnes qui peut-être n'ont pas le même niveau d'exigence que lui. Donc il est frustré, il montre son énervement et après il se reprend en disant « mais oui, mais si j'ai fait ça, c'est précisément pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas... comment dire, nourri des idées nouvelles, notamment sur l'écologie, puisque c'est quand même ça, là aussi, le fonds de commerce d'Illich, c'est mon rôle de leur apprendre. Mais au fond, son comportement, des fois, pouvait être qualifié d'arrogant. Il pouvait l'être dans des moments d'énervement. Il l'a été quand il a été malade, par exemple. Il a eu un cancer et donc il était beaucoup plus crispé, beaucoup plus moins disponible. Alors il avait une autre vertu. C'est le paradoxe, parce que c'est un peu le en même temps. Hein. Il était en même temps disponible, en même temps indisponible. En même temps il était joyeux et en même temps il pouvait être très mélancolique. Voilà, c'est comme beaucoup d'ailleurs. Mais lui, ça prenait des proportions. On tombait bien ou on tombait mal. Voilà.
Parlons de son œuvre qui nous reste, qui est encore présente. Alors, on peut dire qu'Ivan Illich s'est attaqué à beaucoup d'institutions, l'État, l'Église, on en a parlé, la technique, le progrès, l'école, la santé, la ville, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Michel. Son premier livre, c'est en 1971, s'intitule Libérer l'avenir.
Libérer l'avenir, qui donne un peu les pistes de tous les autres livres.
Sous-titre, appel à une révolution des institutions.
Oui. Donc déjà, on met les choses au clair. Il n'est pas là pour faire de l'analyse ou de la littérature. Il est là pour dire, voilà, ça va pas ici. Et je vais vous dire pourquoi ça va pas. Alors évidemment, à l'époque, on se méfiait un peu de ce discours qui pouvait être considéré comme un discours un peu lénifiant et surtout très, très abstrait. En réalité... dès qu'il avançait un peu les pions dans les ateliers, les nombreux séminaires qui existaient, on s'apercevait qu'il allait jusqu'au bout des démarches. Je parlais de Jean-Pierre Dupuis tout à l'heure, c'est son cas, mais Étienne Verne ou d'autres sont des personnages qui ont été dans un travail de proximité sur, prenons le vélo. Il dit la ville, un jour ou l'autre, va exploser. Parce que ce sont les transports qui tuent la ville, c'est rien d'autre. Ça crée de la pollution, ça génère du stress, c'est de la vitesse. On est dans une perversion. Il faut tout de suite, et on est en 65, installer et adopter le vélo. Donc il demande à ses pairs d'expliquer tous les avantages statistiques, mathématiques, algorithmiques qu'il pourrait y avoir à avoir le vélo, de posséder un vélo.
On parle même de syndrome de la vitesse.
Voilà, ouais. Donc on va très loin, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une anticipation. Et en réalité, si vous reprenez les textes, dans le livre, je prends plein d'extraits précisément pour montrer, il n'y a pas d'invention, il y a une constatation, c'est le fait que, on prouve que le vélo est simplement l'outil qu'il faut utiliser tout de suite. C'est un exemple anecdotique, mais comme aujourd'hui on ne parle plus que du vélo, ben, il suffit de remonter 50 ans avant, on s'aperçoit que d'autres y ont pensé.
Le vélo et la marche.
Et la marche, pour justement éviter d'avoir une santé malfaisante, que le diabète, toutes ces affaires-là peuvent être éliminées en amont et pas en aval, que l'aval, c'est un coût social parce que c'est l'hôpital, l'amont, ça n'a pas de coût.
On va en parler tout à l'heure de l'hôpital de la santé, qui est un domaine très important dans son œuvre. Il a écrit en 1971 aussi « Une société sans école ». Livre très important, dans lequel il écrit notamment ceci, c'est en dehors des bancs de la classe que tout le monde apprend à vivre, à parler, à penser, à aimer, à sentir, à jouer, à jurer, à se débrouiller, à travailler, en dehors de l'école. Alors, on a choisi pour cette rentrée scolaire, nous avons un petit côté mauvais esprit, on a choisi de l'entendre parler de l'école. Et écoutons la voix et les propos d'Ivan Illich lors de l'un de ses passages à Paris. C'est un extrait d'une émission diffusée à la télévision française, Un certain regard, c'est le titre de cette émission, diffusée en 1972. Il est interrogé par un condisciple, en quelque sorte, Jean-Marie Domenac, lors d'une conversation entre donc ces deux intellectuels, et il parle de l'école.
À l'école, l'enfant apprend avant tout que apprendre est le résultat d'un processus d'institution officielle. Il apprend que, d'année en année, on devient d'une valeur plus grande personnelle parce qu'on accumule plus une nouvelle couche d'un bien spirituel, d'un bien non tangible. On apprend que ce qui est valable à apprendre, ce qui me servira plus tard, ou peut-être ce qui servira à la société plus tard, c'est ce qui peut être transmis par quelqu'un qui est professionnel. On apprend que enseigner, si on n'est pas professionnellement instituteur, est en quelque forme moins valable. Alors toute la critique de l'école est postérieure à l'année 60. Je crois que nous avons eu un certain succès à susciter la pensée sur la nécessité de la déscolarisation des sociétés. D'imaginer une société qui est plus simple, avec une technologie plus transparente.
Déscolarisation, nous commençons cette saison en plein mois de septembre, en pleine rentrée scolaire, en parlant de ça. Que veut-il dire exactement ? D'ailleurs, ça rejoint une critique générale, et vous en parliez tout à l'heure, Jean-Michel Dion, de cette spécialisation des institutions.
Oui. Effectivement, là, il touche un point névralgique de la société. Et encore une fois, à l'époque, c'était très difficile de mettre les pieds dans le plat. Il l'a fait. D'abord, il y a eu un premier malentendu sur le titre. Le livre s'appelle « La société sans école ». Il aurait dû s'appeler « La déscolarisation ». Mais à l'époque, quand Paul Flamand était patron du Seuil, il a souhaité avoir ce titre-là, mais c'est une traduction d'un ouvrage américain qui, lui, s'appelle « La déscolarisation ». Et donc, il y a déjà eu un malentendu sur le fait que tout le monde a pensé que Illich voulait détruire l'école. Il a jamais voulu détruire l'école. Il a simplement voulu dire « Attention, l'école fait pas son travail ». Qui est un travail d'apprentissage, de compagnonnage par rapport à la vie, et qu'il fallait distinguer l'école de l'éducation, ce qui est totalement différent. Voilà, donc il y a déjà un malentendu sur les concepts, mais qu'est-ce que dit Illich au fond ? Il dit, voilà, il se trouve que quand on est sur Terre, on apprend à marcher en gros tout seul, on respire sans avoir besoin d'un professeur de respiration, qu'il y a un certain nombre d'éléments qui nous font grandir, qui n'appartiennent pas au mur scolaire. Il y a toute une avancée de la construction personnelle de chaque individu qui ne doit rien à l'école, qui doit aux parents, qui doit à l'environnement, et éventuellement à l'école, mais ce n'est pas là où doit se situer nécessairement l'apprentissage de la vie, puisqu'on constate, et ça c'est le deuxième élément le plus, subversif, mais qui mérite aussi aujourd'hui d'être traité, c'est le fait que l'école est devenue aussi, je dis bien aussi, un lieu de compétition. Un lieu où l'acquisition des diplômes est beaucoup plus important que l'acquisition d'un savoir, même si les deux peuvent se rejoindre.
Et même des classements des meilleurs lycées, par exemple.
Voilà, tout ça. Oui. Le classement de Shanghai devient un vrai problème par rapport à ce qu'on imagine. L'idée que la première satisfaction d'un ministère de l'éducation, quel qu'il soit, de droite ou de gauche, c'est combien il y a eu de reçus au bac. et on va bientôt avoir 110% de reçus au bac si ça continue. Donc
on en est à 91, hein, je
voilà,
crois.
Voilà. Donc cette matière statistico-politique de l'école nuit considérablement à l'idée d'installer des jeunes enfants dans la vie. Et ça, il le traite de façon brutale.
Mais ça s'est pas arrangé depuis, Jean-Michel.
Ça s'est pas maintenant... du tout arrangé, mais il expliquait lui.
Tout c'est... repose sur l'école, souvent,
bien sûr.
Hein, pour
en même
beaucoup
temps,
de
parce
de,
que
de
ça
familles.
Fait partie de, d'un système d'équilibre institutionnel qui est, on est bien content que l'école existe, mais lui, il dénonce pas l'école, il dénonce la manière dont l'école s'est pervertie, en fait, voilà, comme l'église.
C'est-à-dire
voilà.
En se spécialisant, en s'institutionnalisant.
En faisant en sorte que les gamins n'arrivent pas à rejoindre, à faire de la reliance entre les disciplines, que l'idée même de la discipline scolaire n'est pas la meilleure façon de laisser s'épanouir certains esprits beaucoup plus sensibles au monde d'aujourd'hui. Il y a un décalage saisissant, on le voit bien sur la progression incroyable des décrocheurs dans l'école depuis les années 72.
Donc l'époque 72, ouais, il a écrit son livre en 71.
Ouais, mais sauf qu'on a les statistiques aujourd'hui. Ouais. On voit bien que le décrochage, on voit bien que l'illettrisme augmente. Quand on arrive au collège, quand même maintenant, on atteint 11% de gamins qui savent ni lire ni écrire. Ils savent compter, mais ils savent ni lire ni écrire. Donc, qu'en déduire de ces formations avant la sixième, où précisément l'école est faite pour apprendre à lire et à écrire. Alors globalement, ils savent lire et écrire, mais ceux dont on va parler, qui vont poser problème à la société, c'est ceux qui ne savent pas lire et écrire. C'est comment l'inégalité se fourvoie dans le système de la transmission, dans des institutions qui sont financées par les États, et qui sont donc financées par l'impôt. La République aime l'école, parce qu'elle produit officiellement dans les textes, depuis Gambetta et Jules Ferry, de l'égalité républicaine. En réalité, on sait que c'est pas vrai. Mais on continue à financer, par l'impôt, une institution scolaire qui produit de l'inégalité. Il faut en tirer quelquefois des conclusions. Beaucoup d'enseignants sont prêts à le faire. Mais la grande majorité du monde enseignant ne peut pas l'exprimer. Ce sont eux-mêmes des figures essentielles qui sont soumises à la loi d'un système éducatif qui est relativement frustrant pour ceux qui veulent enseigner.
Alors ça, c'est Ivan Illich et l'école. Il y a bien d'autres domaines qu'il a étudiés. Et je voudrais qu'on s'arrête sur un livre qu'il a écrit en 1973, cette fois, qui s'appelle « La convivialité ». Et je vous propose de retrouver Ivan Illich dans la même émission, Un certain regard en 72, et toujours interrogé par Jean-Marie Domenac. Et là, il définit ce qu'est, selon lui, cette notion de convivialité.
Il faut se rendre compte que la productivité des institutions arrive à un certain point où elle commence à étouffer, rendre impossible notre disponibilité à la convivialité. On arrive à un certain point où toute une culture peut être tellement orientée vers la réalisation de la vie humaine à travers la consommation de biens et de services, qu'on devient incapable, comme membre typique de cette culture, de dépendre de la surprise que l'autre, même s'il n'est pas un professionnel, même s'il n'est pas membre d'une institution, même s'il n'a pas appris quelque chose de spécial, peut me soigner. Je peux apprendre de lui. Il faut opposer l'espérance récupérée à l'espoir dans le sens de l'anglais expectation, rising expectation. Il faut de nouveau apprendre à opposer la disponibilité à la surprise, à l'expectative, à l'espoir qu'une institution me donnera le produit que j'ai appris à planifier et à déterminer dès l'avance. Je crois que cette récupération de la capacité de dépendre l'un de l'autre, même dans les sociétés technologiques, qui sont les sociétés les plus malades, dans l'Occident et dans l'Orient, est la grande tâche de ce moment-ci.
Ce qui est assez fascinant quand on écoute Ivan Illich, c'est non seulement de goûter la qualité de sa langue française, mais de mesurer à quel point son raisonnement est très précis.
Et quelle actualité! Mais quelle actualité! Au moment où on ne parle que de Covid dans le monde, de masques, de plastique pour séparer les gens, que l'on voit la contrainte sanitaire installée qui nuit considérablement à la captation de l'énergie informelle. C'est quelque chose qui va ressurgir, mais il suffit de relire Illich et la convivialité pour comprendre justement où se niche tout l'intérêt de vivre ensemble.
Vous citez un extrait de La Convivialité, donc livre écrit en 1973 dans votre livre, Jean-Michel Dian. Voilà ce qu'écrivait Ivan Illich dans son livre. Je crois que la croissance s'arrêtera d'elle-même. En un temps très court, la population perdra confiance non seulement dans les institutions dominantes, mais aussi dans les gestionnaires de la crise. Ce qui est évident pour quelques-uns sautera un jour tout à coup aux yeux du plus grand nombre. Cette économie tout entière organisée au service du mieux-être est l'obstacle majeur au bien-être.
Il a tout résumé. Il a tout résumé ce qu'on vit aujourd'hui. Sauf que c'est en 73, c'est-à-dire quasiment dans le contexte de la crise du pétrole.
Et à propos de la convivialité, il écrit aussi ceci, vous le mettez en exergue dans votre livre, « J'appelle société conviviale une société où l'outil moderne est au service de la personne intégrée à la collectivité et non au corps de spécialistes. Conviviale est la société où l'homme contrôle son outil. » C'est aussi d'une actualité brûlante. Absolument. Les spécialistes.
La spécialisation devient l'ennemi.
Et là, il touche le monde de la médecine particulièrement.
Mais tous les mondes, hein, mais la médecine en particulier, parce qu'elle est la plus anxiogène. Déjà, hein, Némésis médical est un livre majeur, même pour les médecins. Hein, mais sur l'école, sur les transports, sur les prisons, sur des sujets qui sont de nature à fermer les yeux. C'est-à-dire que les murs, c'est physique, hein, les murs empêchent de voir. Quand on est à l'extérieur, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme le masque. La société est masquée par ses propres institutions. Donc on ne voit pas comment ça fonctionne à l'intérieur, mais l'institution, par sa force, par sa puissance, par son caractère monopolistique, peut donner le change en disant que ça marche. Et c'est vrai que globalement ça marche. On construit toujours des automobiles, il n'y a pas de souci. Mais les institutions produisent en leur sein un tel phénomène de spécialisation qu'elle nuise à la compréhension générale d'un phénomène plus pervers qui existe, le mal-être. Ça peut être simplement...
Nous y sommes.
Nous y sommes, voilà. Donc cela est traité par Illich et toute la bande qui a bossé à Cuernavaca pendant 10 ans. Lui-même également au-delà de Cuernavaca après 76, mais on est déjà juste derrière la crise du pétrole. Némésis médical, puisque vous l'évoquez, c'est un livre majeur, parce que là, il s'attaque à...
1973 aussi.
Ouais, voilà.
Il a beaucoup écrit dans cette...
Oui, là, c'était
époque,
vraiment
hein.
les derniers grands feux de l'illichisme flamboyant. Hein. Mais c'est vrai que l'hôpital, pour lui, c'était nécessaire de rentrer dans le chou de l'hôpital. Non pas, encore une fois, on va encore simplifier à cause de nos comportements et nos intellectuels binaires, c'est bien ou c'est mal, c'est pas ça. Il cherche à dire, l'hôpital, c'est comme une autre institution, quelle qu'elle soit, elle produit des effets pervers. En l'occurrence, le sien, c'est de créer des propres maladies qui n'existaient pas avant l'existence de l'hôpital. Les fameuses maladies nosocomiales dont on parle, qui tuent quand même des milliers de gens dans le monde, ne doivent pas cacher le fait que des grands chirurgiens sont capables de soigner des maladies qu'on soignait pas avant. Mais il faut mettre tout ça dans un raisonnement horizontal et de dire que si on a avancé dans la chirurgie, et c'est vrai, personne ne peut contester que la chirurgie a fait avancer la santé. On a exclu aussi les patients d'une certaine autonomie, subsistance, d'autogestion de soi-même par la possibilité de se soigner tout seul. Et pour montrer jusqu'où peut aller cette perversion, Illich évoque on ne peut plus naître chez soi et on ne peut plus mourir chez soi. C'est-à-dire qu'au fond... la maman peut pas accoucher, c'est interdit, d'un point de vue purement hygiénique, et on ne peut surtout pas mourir chez soi si on en a envie, parce que ce n'est pas hygiénique. Voilà. C'est un problème de santé publique, c'est un problème, voilà. Donc, le médecin a décidé de prendre dans sa charge l'ensemble d'une vie. Et c'est ça qu'ils contestent. Ils contestent pas les performances possibles.
Bien sûr.
Ils disent seulement, réfléchissons. Ce que disent maintenant le professeur Combe, par exemple, à la Salpêtrière, dans Le Monde, cet été, évoque Ivan Illich en pleine crise du Covid, pour expliquer qu'il choisit son métier de médecin, mais il dit attention, que les patients comprennent qu'on ne peut pas tout faire et qu'on ne fera pas tout sans eux. Il y a une partie d'eux-mêmes qui ne relève pas de la médecine, mais il faut chercher à comprendre quoi. Et de cela, Illich en fait un matériau premier pour ceux qui font politique, c'est-à-dire les gouvernants.
Que reste-t-il de ces idées, Jean-Michel Durand, pour conclure cette émission? On a dit tout à l'heure que ces idées, ces analyses, ces visions ont distillé, enfin se sont instillées un petit peu, mais il n'a pas de successeur, il n'a pas eu d'héritier en quelque sorte.
On ne peut pas dire qu'il est vraiment d'héritier, le seul peut-être c'est effectivement ce dont que j'ai cité, mais qui sont dans l'institution.
Oui.
Le seul qui se sent, qui est vraiment en dehors de l'institution, pour les mêmes raisons qu'Illich, qui a vécu sa marginalité, c'est Edgar Morin.
Oui.
Voilà, c'est le seul.
Qui a continué à avoir sa démarche généraliste,
transdisciplinaire, la complexité du monde, arrêter de fonctionner avec des simplismes, le monde est plus compliqué, donnons-nous la possibilité de le comprendre dès l'école. Morin a fait la même chose quand il a écrit son bouquin « La tête bien faite ». C'était pour expliquer exactement ce qu'il dit que j'ai expliqué de son côté, mais adapté au système français. Bon, comme partout, ces intellectuels, pourtant loin d'être dans la théorie spéculative, mais dans le concret, se sont fait éjecter du système. On est dans la compétition, on est dans le libéralisme absolu, et de cela, on s'en sort pas.
Y compris à l'université.
Oui.
Il faut produire.
Il faut produire, et puis surtout, il y a une abdication générale des enseignants qui font ce qu'ils peuvent dans un système qui leur donne pas la possibilité d'avoir cette marge de manœuvre qui les autorise à faire quelque chose sans en référer. Et ça, c'est le vrai problème, c'est celui de la subsistance. Il en reste beaucoup de choses, et tout ce qu'a fait Illich pendant toutes ces années, et c'est ça qui est presque troublant pour moi qui fais ce travail pendant plus d'un an et demi, je trouve ça très troublant de constater qu'il existe un matériau brut de décoffrage, parfaitement d'actualité, qui sort du champ politique. Les deux seuls, pas les deux seuls, il y a eu quelques personnages politiques qui ont été nourris par Illich, Michel Rocard le premier. Si Michel Rocard est allé plus loin, on s'en est fallu très peu que la gauche capte cette énergie illichienne écologique au détriment de l'activité de l'idéologie productiviste que le marxisme avait en son sein.
Héritage qu'elle réclame aujourd'hui.
Qu'elle réclame maintenant.
Que le Parti Socialiste se veut maintenant écologique et plutôt...
Alors qu'en 70, lors du congrès d'Ipenis, d'épiner, c'était possible de le faire. L'histoire est passée.
L'histoire est passée, mais Illich continue.
Ah, Illich continue, il revient en force, on voit partout d'ailleurs, c'est très bien.
Merci Jean-Michel Durand. Il faut lire votre livre, votre essai, votre biographie qui s'intitule « Ivan Illich, l'homme qui a libéré l'avenir », il est publié au Seuil. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky, idée à retrouver également sur notre site et sur votre plateforme de recherche préférée pour la podcaster. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche 17h10, heure de Paris, pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.